Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. À l'heure où TF1 vous prépare ses meilleures séries de Noël, on va vous emmener encore une fois aux États-Unis pour parler hip-hop. Et même sous le soleil, puisqu'on voyagera à Miami en Floride. On fera notre habituel tour historique de la ville avant de vous plonger dans le sujet du soir. Mais avant d'y venir, passons par l'étape obligatoire, les présentations de vos chroniqueurs préférés. Jojo est avec nous. Comment ça va, Jojo ?
Ça va très bien, je suis méga chaud. Et toi, comment ça va ?
Écoute, la grande forme. Et Momo est dans cette place. Comment ça va, Momo ?
Dans cette place, dans cette merde et un peu dans Joséphine Ange Gardien aussi.
Voilà, exactement. Un grand fan des séries de Noël. On vous rappelle que vous pourrez retrouver nos anciennes émissions sur notre Facebook, Deeply Rooted, l'émission. Vous trouverez dessus le lien vers notre Super Mix Cloud qui répertorie tous les podcasts, mais aussi toutes nos actus et nos quelques playlists en lien avec nos sujets. Les actus, c'est quand on a le temps. Les playlists, on n'est pas trop mal.
Sur les playlists, toutes les émissions, il y en a. Pour tous
ça
les
vient une semaine après l'émission, le podcast en général.
Voilà, vous avez du YouTube, du Spotify, tout ce que vous voulez.
Et allez mater les clips sur YouTube parce que ça vaut le détour à chaque fois. Il y a toujours des petits clips truculents.
Ouais, allez mater. Ça rajoute du visuel.
Truculent est le mot.
On peut pas vous mettre ça. Le programme du soir, donc j'y reviens. J'ai envie de dire la boucle est bouclée. On va finir notre tour sudiste par Miami. Là où tout avait commencé concernant ce hip-hop club et décérébré, qu'on a déjà vu dans les émissions précédentes. La formule, en gros, c'est des grosses basses étirées, de la Roland TR-808, des lyrics explicites qui vont choquer tout le pays, on le verra, du booty shake, encore une fois, et voilà, tout ce qu'il y a de mieux pour vous faire danser, du son de club ou de caisse au choix. Et c'est pour ça que les DJ, d'ailleurs, ont la part belle dans cette émission. Un beau programme qu'on va attaquer juste après le premier son de la soirée, qui est un son un peu spécial parce qu'on n'est pas trop dans le hip-hop. Est-ce que Jojo, tu peux nous en dire un mot ?
Ouais, on va commencer par une petite surprise. On met pas un son tout de suite de rap, on met du une sorte de disco. C'est Casey and the Sunshine Band. Et c'est déjà un son qui va annoncer le délire un peu sexuel et suggestif de la scène.
Allez, on s'écoute ça et on revient tout de suite pour le sujet du soir. À toutes. Shake, shake, shake.
Shake your booty.
Bien vu, bien vu. Donc, c'était Casey and the Sunshine Band. Pour vous mettre dans l'ambiance, c'est pas spécialement... Enfin, si, c'est représentatif de la scène, surtout au niveau du message.
De l'esprit, ouais.
Voilà, exactement. On va donc faire notre focus sur Miami, qui, dans l'imaginaire de la plupart d'entre nous, évoque le soleil, les bling-bling, la plage, les billets qui volent, Rick Ross, autoproclamé boss local. Autoproclamé, j'ai dit.
Oui.
Mais de désolé, ouais, on parlera pas de ça ce soir. On va revenir sur les années d'avant pour nous intéresser à une autre période dorée de la ville, qui est, au niveau musical du moins, qui est la Miami Bass. Le résultat d'une histoire mouvementée concernant la Magic City, comme on l'appelait à l'époque, au début du XXe siècle, à cause de sa forme, une croissance assez extraordinaire au niveau de la population ou concernant les activités plus ou moins légales qui prospèrent à l'époque. Les jeux, l'alcool, l'arrivée de la mafia, voilà, la bonne réputation de la ville.
Il y a justement une série qui s'appelle Magic City, qui est pas trop mal, qui y a deux ou trois saisons.
Ouais.
Je le conseille.
Qui parle de ça, justement ?
Qui parle de Miami, et voilà, un peu de ce que tu dis.
De ces années folles. Et donc, il y a cette période-là, et ensuite, il y a une grosse période qui est après l'arrivée de Castro au pouvoir à Cuba, et qui voit donc la ville... dans la ville arrivent 250 000 Cubains au minimum, qui vont s'installer petit à petit dans ce qui va devenir Little Havana. Un quartier assez connu de Miami qu'on peut retrouver dans pas mal de séries et de films. Ça va être le début d'une longue histoire justement entre Cuba et Miami. Bon, c'est dû à la situation géographique de la ville hein, qui est juste à côté aussi et qui va donner cette dimension très hispanique aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, Miami reste la troisième ville d'immigration au total hein, des États-Unis, pardon, derrière New York et Los Angeles. Et dans le même temps, dans les années 50, on l'a vu dans les autres émissions, c'était peut-être plus prononcé, mais ce sera le cas aussi à Miami, il va y avoir une grande période donc des luttes afro-américaines, et qui vont être donc largement représentées à Miami. Côté business, toujours, on y revient dans les années 80 et 90, c'est la grande vague de criminalité qui va prendre possession de la ville, et qui est exposée, comme je disais tout à l'heure, dans les séries et les films. C'est le cas notamment dans Scarface, qui nous replace justement dans le contexte des vagues migratoires qui viennent de Cuba, qui fuient le régime politique ou la pauvreté, et qui en même temps nous expose l'imposant trafic de cocaïne qui prospère à Miami, parce que la ville est clairement un lieu de transit entre les États-Unis et la, les productions en Amérique du Sud, en Bolivie, Pérou.
Je crois que même dans Narcos aussi, ça, il passe par Miami.
Oui, voilà. Bah, globalement, dès qu'on parle cocaïne, à chaque fois, il monte. Il y a toujours une antenne à Miami, parce que c'est vraiment par là que transité, que l'argent était blanchi aussi. Donc, c'était au niveau illégal, il y avait bien sûr la cocaïne, mais aussi tout le business local de la ville, toutes les entreprises. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de corruption, d'argent sale, etc. De quoi provoquer aussi quelques guerres de gangs. Et pour maintenir la réputation donc sulfureuse de la ville, qui s'est fabriquée petit à petit, et qui va être entretenue également par la présence de nombreux clubs, strip clubs, qui donneront l'occasion, comme souvent, de diffuser de la bonne musique. Et donc cette réputation sulfureuse, on va la retrouver dans son histoire musicale, que Jojo va vous conter gentiment.
Ouais, alors comme tu dis, il y a une grosse culture hispanique latine, et en tout cas qui vient des Caraïbes, et qui est essentiellement de Cuba, mais aussi de Jamaïque et un peu de voilà, toutes les Caraïbes. Et ça se retrouve donc dans la culture un peu club et dans les voilà, comme on disait, les tout ce qui est un peu suggestif et sexuel. Déjà dans les années 80, dans les 70, pardon, avec Casey and the Sunshine Band qu'on a écouté. Mais aussi, et surtout, même Blowfly, un rappeur super-héros un peu bizarre, qui est notamment l'idole de Too Short et de Snoop Dogg. Il y a une interview de Snoop Dogg par Nardwar, je conseille à tout le monde les interviews de Nardwar, et particulièrement celle de Snoop Dogg, où vraiment Snoop Dogg est comme un petit fou parce qu'il a retrouvé la poupée de Blowfly. Et c'est très très drôle, et Blowfly c'est un mec qui vient plutôt du disco funk aussi, et qui s'est mis un peu à faire des parodies de morceaux déjà connus, qui les a parodiés en version très explicite. Et puis c'est aussi un des premiers rappeurs finalement, parce qu'il a sorti en 1980 le morceau Rap Dirty, qui est un storytelling hyper salace, très très drôle. Et c'est, voilà, c'est un peu la naissance déjà, dès les débuts des années 80, du fun rap, quoi, un petit peu, ce qui sera un peu partie, enfin, façon d'identifier le Sud qui est plus fun que les autres.
Ouais, bien sûr.
Et puis donc aussi à Miami, il y a participé à l'avènement de la Roland TR-808, donc on vous a déjà parlé. Mais là, c'est par une histoire un peu rigolote, j'aime bien raconter des histoires, donc je vais vous raconter celle-là.
Tu redis ce que c'est la TR-808, je sais pas si t'allais le dire.
Ouais, c'est une boîte à rythme, exactement, excuse, j'ai pas précisé. C'est une boîte à rythme qui est à la base un truc un peu cheap, qui est la version pour les producteurs, ceux qui veulent faire du son à moindre coût.
Ouais, voilà, c'était plus facilement accessible que d'autres matos
à
l'époque.
Mais elle a eu une très mauvaise réputation à sa sortie, on pense que c'est un truc de. Enfin voilà, les sons sont hyper synthétiques, hyper bizarres, ça plaît pas du tout. Mais il y a Afrika Bambaataa qui est quand même un grand nom du hip-hop, qui l'a popularisé avec le mythique son Planet Rock. Et donc là, je raconte du coup mon histoire, c'est un bassiste de Miami, du studio Sunnyview, qui s'appelle Amos Larkins, qui produit aussi dans le studio, qui participe au mixage. Et donc à un moment donné, c'était un grand fréquentateur, il fréquentait des strip clubs, et il le faisait souvent, et un jour, il a ramené une stripteaseuse avec lui dans le studio alors qu'il devait finir le mixage d'un morceau. Et il y avait la stripteaseuse, mais il y avait aussi beaucoup d'alcool, un peu de coke. Et donc, il s'amusait un peu avec la Roland TR-808, voilà, qu'il avait entendu sur Planet Rock. Il s'amuse un peu avec le truc. Mais bon, il ne se rend pas trop compte de ce qu'il fait, il est un peu bourré. Et puis le lendemain, il réécoute même pas ce qu'il a fait, il le balance, il le ramène au gérant du studio pour que le single soit mis en vente à la radio, etc. Et une semaine plus tard, il se rend compte que la basse, elle est sur une fréquence ultra grave, hyper élargie, quoi. Et que limite, ça fait vibrer les enceintes à un point énorme. Et lui, il se dit, je vais me faire virer. Puis en fait, il se rend compte que les gens kiffent, quoi.
Ouais.
Et du coup, il commence à faire plusieurs morceaux comme ça, et c'est comme ça qu'est née la Miami Bass.
Ouais, d'un accident, quoi.
Voilà, un accident. C'est ça qui est assez marrant, mais c'est souvent un peu comme ça. Et quelques temps plus tard, il y a le morceau de MCID qui est considéré comme le premier succès du genre Bass Rock Express. Et donc voilà, on est dans un son un peu, comme je disais, c'était inspiré des Afrika Bambaataa, tout ça. Il y a aussi Egyptian Lover ou Mantronix, c'était des DJ rappeurs parfois de New York, qui font en fait ce qu'on appelle de l'électro-funk, électro-rap. Et c'est aussi un peu inspiré de tout ce qui est Kraftwerk, trucs comme ça, un peu la musique électro de rap, quoi. Et, mais surtout donc avec les grosses basses, les basses hyper tellement ralenties qu'elles en deviennent dangereuses pour les enceintes. Ça peut faire bousiller du matos, quoi. Et voilà. Et donc t'as les premiers artistes qui sont issus de ce délire-là. Il y a MC AD, comme on a dit, avec le morceau machin.
Bass
Bass
Rock
Rock Express,
Express, ouais.
voilà. Ensuite encore DJ Magic Mike, Gigolo Tony, sacré blaze, qui est aussi quelques bons petits sons à son actif.
Sacré gigolo.
Magotron. Et enfin, at last but not least, le Two Live Crew. Et je crois que là, je vais laisser la parole à mon compère Momo, qui va nous en parler. Bref.
Mais ouais, on va en parler plus longuement, mais juste avant, on va s'écouter un petit son du Two Live Crew qui s'appelle Throw the D. Le D, parlant bien sûr de la dick, hein, on vous fait pas d'image
Traduction.
et on se retrouve voilà, pour vous parler de ce groupe très fou juste après le son. À toute.
C'était le Two Live Crew avec Throw the D. On est dans
Ok,
l'ancienneté.
jette les bites en
Jette les
français,
bites.
c'est un peu suspect,
Merci
mais
de la
bon.
traduction.
Oui, bon, écoute, faut bien traduire un peu parce qu'il y a des gens qui
Tout
se
est
plaignent,
suspect dans cette scène, t'inquiète.
des gens qui se plaignent, qui comprennent pas les termes anglais, donc nous on
Donc
fait
là,
la
on est dans du
traduction.
rap old school. Tu vas nous parler de ce fabuleux groupe, justement, Two Live Crew, et de ses personnages qui le composent.
Two Live Crew, ô combien important groupe, et dans les sonorités, en fait, là, bon, ceux qui connaissent un peu et ceux qui voudront écouter après, c'est un peu une extrapolation du son de New York. C'est-à-dire que ça ressemble à des mecs comme Run DMC, Slick Rick, ou même bon, à Africa Bambaataa dont on parlait un peu plus
Slick
tôt.
Rick, tu veux dire la voix, quoi.
Ouais, plutôt la voix que
Ce
dans les
qu'il a après,
instrus.
lui.
Mais ouais, ça ressemble énormément à.
Parce qu'au niveau électro-rap, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est un peu ça qui commence à se faire. Ça vient plutôt de New York, de ce que j'avais compris,
Ouais, ça a
justement,
été.
avant de
Ça,
se développer, ce que tu m'as
oui, c'est ce
raconté.
que je disais tout à l'heure, c'est
Ouais.
Africa Bambaataa qui a vraiment fait ça, avec Mantronix et Egyptian Lover, je crois qu'il s'appelle. Très beau nom aussi.
D'accord, donc des mecs connus de New York, et ensuite toi tu vas nous expliquer comment ça a décalé
Voilà, donc ouais,
vers
ça
Miami.
c'est bah, c'est fatalement dans le rap, à chaque fois c'est les DJ qui servent de relais entre les musiciens, parce que c'est eux qui jouent les musiques dans des clubs d'une ville à l'autre, et au final c'est comme ça que ça s'importe un peu d'une ville à l'autre aux États-Unis. Et le Two Live Crew, bah, pareil, c'est formé d'un DJ qui s'appelle DJ Mister Mix au début des années 80, et de Fresh Kid Ice, nom ultra facile à prononcer, et d'un certain Amazing V, au nom tout aussi LOL. Mais bon, qui a vite déserté le groupe. Et le groupe a été formé en Californie, pas à Miami
Tu
dans un premier
t'intéresses qu'aux
temps.
groupes qui sont formés en Californie et qui reviennent dans le sud, j'ai l'impression.
Exactement, ouais. Dédicace à Master P. Je me suis fait tatouer Master P dans le dos d'ailleurs, voilà. Je vous l'avoue maintenant
Et dans
durant
les
cette
parties plus
émission.
intimes aussi, mais ça, il faut pas le dire.
Non, on ne dira rien du tout ce soir. Donc, Two Live Crew au final, bah, c'est comme un peu pour tous les groupes de rap. Même pas forcément de cette époque, c'est d'abord une renommée locale, comme on l'expliquait, le marché là-bas aux États-Unis est tellement vaste que tu te fais connaître localement d'abord. Et donc, à force de se faire connaître, bah, Fresh Kid Ice, il a une espèce d'anecdote qui lui valut, parce que c'est le premier rappeur américain asiatique, un peu, et aussi le premier à être connu. Donc,
Le
félicitations à
premier
lui pour le
rappeur
coup.
asiatique qui a été connu, c'est ça que tu veux dire?
Oh,
Américain
ouais,
asiatique.
enfin, américano-asiatique, mais aussi premier rappeur
D'accord.
asiatique.
Bon, après, on était quand même là, oui, à une
Assez tôt, quoi.
80, donc il n'y en avait pas énormément. Bon, il n'y en a toujours pas énormément non
Bah
plus.
en tout cas aux États-Unis, non, il n'y a
Ouais.
pas des masses. Mais voilà, donc ils commencent à faire leur petit bout de chemin. Et c'est grâce au single Throw the D qui sort en 86, qui clairement enfin, pose les basses pardon, de la Miami Bass, concrètement en termes
Très
de
beau jeu de
rap.
mots, il pose les basses.
Ah oui, écoute, même quand je veux pas, je fais de l'humour. Hein. Il y a un signe derrière tout ça. Et donc, ouais, Throw the D et We Want Some Pussy, un titre encore bien plus explicite, voilà, qui font que l'album pète localement, et ce sera la première fois que un album portera le nom du Two Live Crew. Cette même année, il y a deux personnes qui rejoignent le groupe, il y a Brother Marquis, donc frère Marquis, c'est très drôle, et tenez-vous bien, un certain Luke Skywalker, dont on va reparler un peu plus tard, mais bon, son vrai nom c'est Luther Campbell,
C'est la plus
Lufu.
grande star de Miami, très clairement.
On est sur un personnage, un
Haut
ancêtre, quoi.
en couleur.
L'ancienneté même, quoi. Et voilà, donc au début, Marquis, quand il intervient, c'est en tant que rappeur. j'allais dire évidemment, mais Monsieur Skywalker, lui, intervient plutôt en tant que manager et espèce de porte-parole du groupe. C'est un peu leur étendard, leur fer de lance, comme tu veux. Et bizarrement, l'arrivée de Luke, bah, ça correspond avec les débuts des ennuis avec la justice du groupe. Parce que c'est un groupe qui a des paroles très crues. On est dans le sexe, le raw, truc dur, quoi. Enfin,
Dur, limite porno rap, quoi.
Ouais, je pense que là, les jeux de mots vont partir dans tous les sens. Mais ouais, on est sur un petit côté porno. Et là, je crois que tout part en vrille au troisième album. L'album qui s'appelle As Nasty As They Wanna Be. Et le single Me So Horny, qui contient une espèce de sample d'une nana qui jouit un peu, qui crie sur le refrain. Le single connaît un gros succès et il en fallait pas plus à l'américaine, enfin aux Américains puritains pour sortir de leur gond. Et du coup, il y a la FAA, qui est l'américaine, enfin l'Association des familles américaines, qui ont clairement eu un lobby qui sévit aux États-Unis. Vous direz vous renseigner là-dessus, qui décide de les attaquer. D'attaquer le Two Life Crew, et plus précisément par le biais d'un avocat qui était proche du mouvement et qui va soumettre quelque chose de très drôle au gouverneur de Floride, qui va lui dire que l'album enfreint les lois relatives à l'obscénité de l'État.
Ouais
donc il y a toute une affaire, tout un délire qui implique un shérif, le juge du comté, qui finissent par déclarer l'album illégal, justement, qui enfreint les lois. L'album est interdit de commercialisation, il y a un disquaire qui se fait arrêter parce qu'il vend le CD à un flic en couverture, les mecs du Two Life Crew se font arrêter en plein show parce que l'album est illégal, ils n'avaient pas le droit de le chanter.
Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait cet album qui était vendu des fois dans les endroits alors que l'album était comme tu dis, illégal, alors qu'il y avait dans les mêmes boutiques des fois des trucs porno, enfin vraiment porno, vraiment explicite.
Oui, ce que j'allais dire.
Ouais. Ça, c'est tout le
délire de l'Amérique. C'est le truc un peu ironique et marrant.
Oui, puis quand tu vois après ce que ça va devenir, Miami comme symbole, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il faut toujours faire jurisprudence parfois pour les autres, mais eux, ils ont quand même retourné, enfin, ils ont été censurés, etc.
Mais finalement, il s'avère qu'il y a deux choses qui en sortent de cette histoire. C'est qu'au final, à force d'en parler, ça fait de la pub au groupe. C'est leur album le plus vendu avec plus de 2 millions de copies vendues aux États-Unis. Je ne me suis pas renseigné sur le reste du monde. Mais pour des mecs qui sont un peu à moitié en indé ou juste en distrib, ça fait d'un, beaucoup de copies vendues, deux, beaucoup d'oseilles engrangées.
Il n'y a pas de mauvaise publicité, hein. De la publicité.
Apparemment, ouais, faut en parler, même si Snoop disait le contraire, que le but c'est de vendre, pas d'en parler. Là, ils font les deux. Et ça pousse même George Lucas, notre ami George Lucas, à s'intéresser au cas de monsieur Luke Skywalker, justement, ouais. Parce qu'il l'attaque au niveau du nom. Et il finit par avoir gain de cause et ce sera plus jamais Luke Skywalker, mais ça va être Uncle Luke, Luke, ce que tu veux, mais ouais. Plus jamais ce nom-là. Il faut savoir que ce cas-là va jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis et en fait, ça annule la décision qui a été prise avant. Donc l'album n'est plus illégal. Et voilà, donc double victoire et dans les bacs et dans les tribunaux.
Mais ce qui est quand même marrant dans cette histoire, c'est que en même temps, comme on disait, c'est du rap hyper décérébré, genre limite complètement con et débile, tu vois. Et en même temps, c'est le truc hyper politique, tu vois. Enfin, c'est un peu un paradoxe, tu vois. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce groupe-là, quoi.
Mais en plus, c'est ce que disait Luke, c'est qu'au final, à se retrouver dans cette position-là, ça l'a politisé, quoi, de se devoir de se manger des.
Ouais, tu veux faire un truc pour rire et finalement tu te retrouves à défendre des causes.
Tu te retrouves dans des procédures qui doivent.
Et voilà, la liberté d'expression, ou je sais pas, des choses comme ça.
Au final, ils sont servis, je crois que c'est le premier amendement de leur constitution, je crois que c'est ça. Ils se sont retrouvés à défendre une base de la constitution américaine devant les tribunaux. On rappelle encore que c'est, mi-année 80. Début des années 90, donc ça reste encore tôt dans l'âge du rap, donc ils ont fait quand même un peu de taf en amont pour les autres rappeurs.
Oui, c'est complètement des précurseurs là-dessus. Ouais.
Et puis après, il y a un quatrième album qui suit, pareil, qui est en mode pas du tout brûlot politique, mais juste par le titre, il s'appelle Banned in the USA, donc banni aux États-Unis, quoi. Voilà, qui rebondit sur ce qui s'est passé avant et pour dire que les mecs ont quand même une espèce de conscience politique. Et pour l'anecdote, ils ont eu l'accord de Bruce Springsteen pour reprendre un sample de Born in the USA, ouais. Pour faire une chanson de l'album. Mais Donc Two Live Crew, au final, ils continuent. Ils ont sorti des albums ensemble. Ils sont séparés, remis ensemble. Donc continuer sur leur histoire, ça reste intéressant, mais pas plus intéressant que de parler de l'oncle Luke, parce qu'il faut quand même parler de lui en
Il
tant
n'y a
que
rien de plus
personnage.
intéressant qu'Uncle Luke, les gars.
Donc Luke, c'est clairement... en fait, là, on vous a parlé de pas mal de gens de fortes têtes dans les anciennes émissions, mais je crois que lui, c'est leur grand-père, en fait. C'est un précurseur du business du rap, hein, clairement, pour plein de raisons. Le mec, déjà petit, il était DJ, il animait des soirées de quartier. Bon, il était beat graveur aussi. Il a
Apparemment,
vendu...
il jouait au dé, il séchait l'école et il jouait au dé et avec la thune qu'il ramassait, il soudoyait les profs. Enfin, c'est
Donc,
la légende.
il y a beaucoup de légendes...
Oui, il vendait de la drogue.
Beaucoup de légendes sur l'oncle Luke, quoi. Et puis, lui raconte que... En fait, il a eu un... Comme il faisait de la merde là-bas, sa mère l'a envoyé à Washington chez son frère pour qu'il le garde un peu sous son aile. Et là-bas, il a vu, en fait, que ça ressemblait pas à Miami. C'est très con à dire, mais que les Renois s'habillaient en costard. Ils allaient dans des... Enfin, ils travaillaient dans des banques, dans des assurances, des gros trucs. Et lui, ça lui a totalement donné un côté entrepreneuriat dans son esprit. Donc en fait, c'est lui, comme je disais, qui a eu l'idée de enfin, il a fait signer les mecs du Two Live Crew, il les a marketés. Le mec a eu l'idée de sortir des albums en deux versions aussi, pour le Two Live Crew. Une version raw, genre pas censurée, une version censurée justement pour toucher un max de personnes. Et c'est dans les années 90, c'est le premier mec un peu à se diversifier. Le mec a des clubs, le mec se lance dans limite dans le porno, quoi. Genre, il fait un truc qui s'appelle. C'était quoi déjà le nom?
C'était Uncle Luke Peep Show, je crois. Il fait des interviews dans des Peep Show avec d'autres rappeurs. C'est complètement what the fuck et surtout très drôle.
Et puis c'est l'avènement aussi du DVD à ce moment-là, donc ça se vend comme des petites galettes. C'est un mec qui est très lié à sa ville, donc il était proche de l'université de Miami, donc il faisait un peu de pub pour les vêtements du club. Il a lui-même été entraîneur de foot US. C'était un mec aussi, c'était le premier un peu à mélanger le côté business, rap et sport. C'est quand même le mec qui a signé le premier MC d'Atlanta aussi, hein, qui s'appelle MC Shady, on va
Ouais.
pas se le
Mais
cacher.
d'ailleurs, il me semble qu'MC Shady, c'est le cousin d'Africa Bambaataa, tu vois. Donc ça, il y a des trucs qui se recoupent, quoi.
Une grande famille, on va dire. Et c'est un mec aussi qui a un peu la main sur le cœur, parce qu'il a lancé un projet caritatif. Enfin, caritatif, c'est plutôt un projet social dans lequel il aidait les jeunes. Ça peut paraître bateau maintenant dit comme ça, mais à l'époque c'était autre chose. D'aider les jeunes à travers le sport. Et mine de rien, d'un, son projet est encore fonctionne
Il existe
encore
encore, ouais.
aujourd'hui. Et en plus de ça a fait quand même sortir des gros stars du foot US. Ceux qui nous écoutent, je pense à Thunos, notamment, il y a Devonta Freeman, le running back d'Atlanta, et Antonio Brown, le running back de Pittsburgh, qui sont des énormes stars en NFL et qui sont passés par le projet social de l'oncle Luke, quoi. S'il porte bien son nom, c'est vraiment l'oncle de tout le monde. Et oui, au-delà de ça, il a aussi fait de la musique, parce qu'on est un peu là
Musique
pour
bien
parler de
bien
ça.
remplie, quoi.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'enfant. Il y a des singles, du business. Voilà, donc aussi bien Two Live Crew que l'oncle Luke, c'est des gens qui ont d'un marqué leur temps, le hip-hop, et par leurs controverses et par leur style qui a influencé le reste du rap, du rap US, mais du Sud, on va dire. Voilà.
Ok, bah écoute, ça donne envie d'en savoir plus. Je pense qu'on balancera quelques. Je sais pas si on a déjà envoyé des trucs sur lui, non?
Non, pas encore.
Non, non,
Si
non.
on avait envoyé peut-être en lien avec le Crunk, parce qu'on en a parlé. On avait parlé un peu de la Miami Vice sur l'émission sur le Crunk.
D'accord, bah
Mais en
on verra des trucs
attendant.
sur lui. On se réécoute un son du groupe, justement, qui passe bien. On l'a évoqué, je crois, dans la partie qui s'appelle We Want Some Pussy.
Exactement.
Et on se retrouve juste après. Pour continuer à parler de la Miami Bass. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est Deeply Rooted, à tout de suite.
À tout de
Yes,
suite.
Vous êtes toujours sur Deeply Rooted. On vient de s'écouter We Want Some Pussy du Two Live Crew que Momo nous a présenté en long et en large. Et Uncle Luke et Trick Daddy avec Scarred. Et maintenant, de quoi tu vas nous parler, Jojo?
Bah, j'avais envie de vous faire un petit aparté parce que j'ai découvert des choses assez merveilleuses en faisant mes recherches pour cette émission. Et notamment, en fait, un sous-genre un peu de la Miami Bass qui est du coup plus la partie. On disait tout à l'heure que la Miami Bass était un peu de l'électro-rap. Là, on est plus côté électro, donc c'est vraiment du truc, enfin, de la musique instrumentale, quoi, de l'électro. Et c'est ce qui s'appelle, ce qu'on appelle aussi la car audio basse. Donc en gros, c'est car audio parce que c'est destiné à être vraiment poussé à fond dans la caisse et jusqu'à la faire complètement trembler et vibrer parce qu'on est, comme on disait tout à l'heure, dans des basses qui sont hyper hyper graves et hyper hyper dangereuses pour les enceintes. Et comme je disais au début aussi, on est toujours dans un genre de son qui ressemble un peu à Afrika Bambaataa, Kraftwerk, ça mélange un peu ce genre de trucs, il y a des voix robotiques, il y a aussi, bon, comme on, encore une fois, une omniprésence de la TR-808 qu'on vous a présenté tout à l'heure, la boîte à rythme, la fameuse boîte à rythme Reine du Sud. Et aussi, il y a énormément de scratch. C'est ce qui fait que ça reste un peu hip-hop quand même. C'est pas que de on n'est pas dans la techno pure et dure.
Et d'ailleurs, tu parlais des basses tout à l'heure, je sais pas si t'allais l'aborder.
Ouais.
Mais j'ai vu que, donc pour faire le lien avec l'émission sur Houston, par rapport à DJ Screw, ça a influencé les autres scènes, et donc justement le fait de ralentir la basse, etc., c'était des choses qui avaient pu aussi l'influencer carrément.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, ça a influencé tellement de choses, mais notamment, c'est vrai, le Screw Den Shop et DJ Screw, le fait de ralentir la basse, le fait de ralentir tout court, en fait, ouais, je pense que ça a joué aussi. Et... Après, je pense qu'on y reviendra un peu, mais c'est vrai que ça a influencé tellement de choses.
C'était juste pour faire de la promo et leur dire d'aller écouter notre émission sur Houston.
Voilà, exactement. Et du coup, j'en étais où ? J'en étais donc, que ça utilisait pas mal de scratch. Et donc, évidemment, des ultra-basses à vous remuer le beat. Quoi. Il y a, en fait, sur les pochettes de disques de ce genre de musique-là, le car audio bass dont je parle, il y a souvent marqué genre « caution ultra-bass, ultra-low-bass ». Ça peut, voire des fois il y a marqué danger, tu vois, genre ça peut endommager vos enceintes, ça peut niquer votre matériel, quoi. C'est un peu comme l'écriteau parental advisory, sauf que là c'est juste, le danger est pas pour les enfants, c'est pour votre matériel, quoi. Ouais. Ça me fait un peu marrer.
Sachant que j'ai oublié de mentionner un petit truc avec toutes les controverses qu'il y a eu sur le Two Live Crew, c'est le premier album qui a le nouveau sticker parental advisory machin là.
Ah ouais,
c'est vrai. Ouais.
Ah ouais,
c'est le premier groupe à l'avoir. Alors, il y avait déjà des restrictions avant, mais c'est le premier groupe à avoir.
Ok, donc précurseur.
Précurseur à plus d'un titre, très clairement.
Totalement.
Et justement, les précurseurs de cette Miami bass, cette car audio bass. Plus instrumental, ce sont des. Je les ai un peu évoqués tout à l'heure, il y a DJ Magic Mike et Magotron. Un peu dans la même veine, mais là on est vraiment plus dans un son techno, ça se rapproche un peu de la techno, il y a Techmaster PEB. C'est assez surprenant, assez cool à écouter un peu tard le soir. Enfin bon, après, j'ai peut-être pas écouté dans les bonnes conditions, j'ai pas fait vibrer ma caisse, mais. Ça s'écoute plutôt pas mal, enfin, en tout cas plus que prévu. Je m'attendais à tomber sur des trucs assez chiants. Mais...
Donc là, il y a vraiment personne qui kick, c'est que de l'instrumental.
Non, là on est vraiment plus sur de la musique électronique, vraiment pure et dure.
Okay. Ambiance Fast and Furious.
Déjà, quoi. Sur les morceaux qu'on écoutait tout à l'heure, il y a quand même une part. Il y a souvent des périodes où personne ne rappe avec la musique toute seule pour s'ambiancer, ce qui n'était pas le cas dans d'autres courants.
Ouais, complètement, mais là c'est vraiment complètement instrumental. Il n'y a plus du tout de MC, il n'y a plus rien. D'ailleurs, ça commence à faire penser. Alors là, c'est juste ma propre interprétation, mais ça ressemble un peu à de la jungle et de la drum and bass. Donc je pense que c'est un peu dans la même période que ça s'est constitué, ces genres-là aussi, donc ouais. ça a dû jouer. Et voilà, donc dans les artistes, il y a, comme j'ai dit, Techmaster PEB, après, il y a des millions d'artistes où il y a le nom bass, genre c'est vraiment Bass 305. 305, c'est le code postal de Miami.
Ouais.
Bass Erotica, alors ça c'est une grosse barre de rire, c'est du son électro-porno, encore une fois un gros délire. Il y a Bass Patrol, Bass Boy, et tout ça, voilà, ça s'écoute, c'est une curiosité, je conseille d'aller jeter une oreille, c'est plutôt rigolo.
Okay. Et donc des personnes ouais, vraiment précurseurs dans l'électro-rap qui.
Je dirais pas précurseurs dans l'électro-rap, mais juste, plus du coup du point de vue électro. Et qui ont poussé encore plus loin, si tu veux, le délire de la basse qui est hyper étirée. Parce que là, c'est moins peut-être le son club explicite, etc. C'est plus vraiment le gros son techno avec la grosse basse hyper élargie, comme tu disais tout à l'heure, hyper ralenti et qui fait vraiment cracher tes enceintes.
Ok. Je sais pas, t'avais d'autres personnes à évoquer?
Non, je crois que j'ai un peu fait le tour. De toute façon, il ne s'agit pas de faire une présentation complète, mais juste une petite curiosité que je voulais partager, qui fait partie un peu de ce monde de la Miami Bass.
Bah, comme d'hab, de toute façon, ce sera des gens qu'on intégrera dans la playlist qui sera faite après l'émission. Généralement, qui sort après, justement, pour élargir un peu, parce que c'est pas évident, on vous met généralement 4-5 sons.
On parle de pas mal d'artistes et de morceaux, donc...
Voilà, donc après, le but, c'est d'essayer d'élargir un peu sur eux et de vous balancer d'autres sons qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'émission. Et on va revenir pour la dernière partie sur les influences. Il y en a pas mal de ce côté-là, au niveau justement électro, dans ce mélange électro-rap. Donc on se balance un dernier son qui va être Techmaster
PEB. Comme j'ai, voilà, un des artistes que j'ai mentionné, Techmaster PEB, donc Eurobass, Eurobass quoi, sans l'accent, ça c'est plus compréhensible. Et voilà, on vous retrouve tout à l'heure.
Allez, à tout de suite. De retour après le son de Techmaster PEB, Eurobass, on va parler des influences et des artistes qu'on n'a pas pu évoquer, de tous les courants qu'on suivit dans le sud ou ailleurs. Peut-être parler d'abord les influences au niveau électro, c'est-à-dire au niveau techno, etc. J'ai vu que...
Il y a double influence, parce que comme on disait, il y a une partie instrumentale techno, enfin électro, et une partie rap, et donc du coup, ouais, techno, il y a déjà quelques trucs.
Ouais, la ghetto tech de Détroit, notamment, j'ai vu ça. Donc Détroit, connu pour sa techno.
Ouais, oui,
tu peux nous en dire un mot, Joachim, grand fan de techno.
Ouais, bah Détroit, techno, c'est assez classique, hein, Carl Craig, pardon.
Carl Craig. Alors, dédicace à Tino, il va pas être content quand il va entendre ça.
Non, Carl Craig, désolé.
Et voilà, concernant ce
genre de DJ quoi.
D'accord, et concernant la house, là c'est plutôt du côté de Chicago avec la Guetta House. Et là c'est Momo qui est spécialiste de la house. Ah non, pas du tout.
De Guetta ou de...
Non, enfin voilà, tout ça pour dire que la Miami Bass a influencé ensuite les autres courants un petit peu orientés comme ça, mélange rap et musique électronique. Sur le rap sudiste, qu'est-ce qu'on peut dire, Momo ?
Bah, ça a eu plein d'influences. Enfin, tu sais, le côté sudiste, déjà, genre un peu dévergondé, ils sont déjà tout le côté strip club.
Ouais.
Dont on a parlé sur les autres émissions et qui était déjà présent à Miami. Donc, je sais pas si ça a eu une influence, mais c'était.
Le côté club poussé, c'est vrai que c'est eux qui ont.
C'est un peu les premiers à le faire et voilà, ça s'est suivi, ils ont donné le ton. Il y a le côté call and response dont on avait parlé dans la partie de Memphis où tu sais c'est les refrains un peu appelés chantés.
On avait parlé pour le crunk, pour la bounce aussi.
Ouais.
Donc c'est
des trucs.
Enfin le côté déjà le rap qui se prend pas au sérieux. Après on en avait déjà parlé de toute façon de la Miami Bass quand on a fait l'émission sur le crunk. Tout ce qui est enfin il y a eu un truc qui s'est appelé Atlanta Bass dont tu as évoqué tout à l'heure MC Shady. Bah voilà c'est ça, c'est la même chose mais Atlanta. Enfin, plus ou moins la même chose. Hein.
Oui, la danse, le fait de danser, de remuer ses fesses, notamment.
Et tout ce qui est strip club, voilà. Donc, ouais. Sur le sud, en termes d'attitude et de même... Après, le son, ça a vachement évolué depuis, mais tout le monde s'est quand même inspiré de ça, quoi.
Là, on peut vous conseiller d'aller écouter les autres émissions.
Houston,
Memphis,
il y a eu Memphis, il y a eu Houston, donc, avec DJ Screw dont tu as parlé, il y a eu le Crunk, il y a eu...
Ouais.
Nouvelle-Orléans avec la bande.
Il y a eu Marseille aussi. Non,
je danse le Mia aussi, on n'est pas loin.
Aucun rapport. Et voilà, après dans les héritages plus ou moins directs.
Vas-y, je veux dire.
Juste pour parler vite fait de ce qui s'est passé, parce que la Miami Bass, on ne sait pas exactement quand ça s'arrête. On a mis tout à l'heure un son avec Trick Daddy de Uncle Luke. Donc, Trick Daddy, c'est un peu le mec qui a repris le... Enfin, qui était un peu la tête d'affiche du rap de Miami dans la fin des années 90. Une petite carrière sympa. Mais même avant lui, il y avait le Poison Clown qui fait aussi des trucs marrants. C'est vraiment du tout live crew. C'est un peu la même chose, mais en version années 90. C'est-à-dire que c'est un peu moins vieilli. C'est un peu plus... c'est un peu plus moderne. Quoi.
Oui, c'est vrai que tout ce qu'on a écouté là
ce soir... Ça fait très vieillot quand même. Ouais, on va pas se mentir.
Puis de toute façon, les sonorités, c'est globalement les mêmes. Comme vous disiez, la Roland, quatre mêmes sons et qui tournent en boucle derrière. Donc on peut s'en jailler.
Un peu cheap, quoi.
Ouais. Mais c'est un peu marrant, ouais, parce qu'on a remonté le temps au final, au lieu de faire l'inverse, de commencer par la genèse et de finir par les sons les plus récents. Mais alors, c'est le seul truc qui est... Enfin, la Miami Bass et Miami en général, ça n'a pas échappé à l'uniformisation du rap US par la trap, dont on va finir par vous parler à un moment ou à un autre. Et ça a aussi donné Pitbull. Aussi, voilà. C'est ça qui est dramatique. L'immigration cubaine a donné Pitbull à Miami, donc moi j'ai rien contre l'immigration cubaine. Mais par contre, j'ai quelque chose contre Pitbull.
Tu mets pas beaucoup de respect sur Pitbull, moi.
Ah, je... pas une once de respect.
Jaillir la planète entière, comment tu
Ouais, ouais, mais.
Bah, enfin... Après, en vrai, il rentre quand même dans le cadre de ce, qu'on, de ce dont on a parlé, c'est-à-dire la culture club, la culture tu vois, caribéenne, etc. Donc Pitbull, il, rentre, enfin, il est totalement dans cet héritage-là. Mais
bon. Pitbull, le puriste qui défend Pitbull, là, on est en.
Oui, bon, il a été lancé par Lil Jon quand même, on va pas se mentir.
Je le défends pas, je resitue.
C'est le crunk de Lil Jon qui l'a lancé. Ceci étant, je vous conseille quand même d'écouter son album qui s'appelle Miami, Money is Still a Major Issue, dont j'avais déjà parlé, qui passe bien en mode ambiançage. Le reste, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis pas garant.
De toute façon, si c'est pas de l'ambiançage, c'est pas... enfin, on n'est pas dans le rap conscient avec Pitbull, ça c'est sûr. Mais...
Un dernier mot sur Diplo et Major Lazer.
Diplo, ouais, bah, c'est des... Diplo et Major Lazer, c'est des mecs qui ont été influencés par ce délire-là, qui sont eux plus dans l'électro mainstream. Et Diplo, il y a un.
Il a fait un mix, ouais.
Il a fait un mix avec la BBC. Base,
ouais. D'une ouais, il heure. Dit qu'il est carrément influencé par, par ça.
Il y a un gros kiff, même. Au-delà même de l'influence, c'est lui-même un gros kiff de ça, tu vois.
Et vu comment il a réussi à diffuser, enfin, c'est des, ils ont fait tube sur tube, donc assez intéressant de voir ça. On a fait le tour. Alors moi, je vais proposer à mes compères de, d'aller voir un peu sur les côtes ouest et ailleurs pour les prochaines émissions.
On est en débat sur les prochaines émissions.
On vous tient au courant rapidement. En tout cas, donc n'hésitez pas à aller écouter les anciennes, ça nous ferait plaisir sur... Notre Mixcloud qui est disponible sur Facebook.
Ouais, allez cliquer fort sur Mixcloud. Hein, c'est
les actus, etc. Donc, Deeply Rooted de l'émission. Et n'hésitez pas à aller checker aussi ce qui se fait sur la radio. Donc, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Merci à eux. Et on va se quitter avec la, la fine.
Avec
la
autre fine... chose, je crois qu'on peut le dire. On n'est plus trop dans le son rétro années 80.
Voilà, mais on est à Miami quand même. On, est
on reste de... à Miami, ça va.
Il y a un autre patron.
Ah, y a un, y a, je dirais même, il y a un autre maton.
Oui, précisément.
Ça va parler de Rick Ross en introduction. Il y a, mais il y a aussi DJ Khaled. DJ Khaled.
C'est vraiment les clics, quoi. Genre les quatre
fait tourner l'équipe. Et donc Pitbull aussi. Alors là, on est sur.
C'est la Dream Team. Il y a Trick Daddy pour rattraper un peu le tout.
Donc là, ce sera Born and Raised qui clôturera l'émission. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Ouais, qui fait bien en famille.
Et on vous donne rendez-vous en 2019 pour.
Les prochaines aventures. Bonheur.
Pour du kiff et n'oubliez pas, fuck Pitbull en 2018, 2019 et même après.
Allez, ciao, bonne soirée.
Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.